Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Bonjour. Un Européen sur cinq a plus de 65 ans. Le nombre des octogénaires sur le continent devrait doubler d'ici 2080. C'est un bouleversement démographique qui a des conséquences en termes d'emploi, de dépenses sociales. Il faut aussi s'occuper de cette population vieillissante, pas toujours en bonne santé. Dans la région du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, une maison de retraite pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer et de démence sénile a ouvert ses portes l'an dernier. Entre ses murs, l'atmosphère des années 50, recréée dans ses moindres détails, vivre dans le passé est un réconfort pour ces hommes et ces femmes à qui la mémoire joue des tours. Les explications de Marie Billon.
On dirait un décor de film dont l'action se déroulerait dans les années 50. Il y a un barbier, un bureau de poste à l'ancienne avec de vraies balances d'époque pour peser le courrier, un vieux garage et une Aston Martin du milieu du siècle dernier. Tout a l'air vrai, tout en tout cas est authentique, sauf peut-être les fruits et légumes en plastique chez le maraîcher. Cette rue, qui traverse le temps, elle se trouve dans une maison de retraite créée par deux frères jumeaux, Danny et Damien Holt, deux infirmiers psychiatriques. Ils ont décidé d'appliquer la théorie de la réminiscence à cet établissement de 67 lits. La méthode encourage les patients à se souvenir et à parler de leur vie en s'appuyant sur des vestiges de leur passé, des photos ou bien des objets de l'époque. Cela, plutôt que de répéter aux personnes souffrant de démence sénile qu'elles sont désormais au XXIe siècle, serait un facteur de bien-être. Comme la plupart des patients de cette maison de retraite ont entre 70 et 80 ans, ils avaient 20-30 ans pendant les années 50. C'est donc la période que les fondateurs ont choisi d'illustrer. À l'intérieur de l'établissement, il y a aussi des clichés montrant les villages voisins et les environs et la salle commune ressemblent à un vieux pub. Mais ce n'est pas qu'une question de décor. Dans les couloirs, il y a un arrêt de bus avec une carte montrant les anciennes routes. Les deux fondateurs assurent que plusieurs pensionnaires aiment dire qu'elles vont à Chipley, un village voisin. Ça soit un moment pour attendre un bus qui bien sûr n'arrivera jamais avant d'oublier ce qu'elles allaient faire. Ça leur donne l'impression d'être actives, disent les fondateurs, d'avoir des choses à faire, ce qui est naturel quand on croit qu'on a 20-30 ans. Mais tout ne se fait pas à l'ancienne. La maison de retraite a aussi une salle réservée aux ordinateurs pour que les résidents dont les familles vivraient à distance puissent rester en contact avec leurs proches. Et d'ici une dizaine d'années, le décor des années 50 sera remplacé par celui des années 60. La maison de retraite compte évoluer avec ses patients.
Dans leur immense majorité, les personnes âgées souhaitent vieillir chez elles. Mais avec le grand âge, la dépendance, le maintien à domicile n'est pas toujours possible. En Espagne, un petit village d'Estrémadure s'est complètement transformé pour permettre à ses habitants de rester là où ils ont toujours vécu. Un village tout entier adapté aux seniors, qui permet aussi à des jeunes de venir s'installer dans la région. Résultat, on vient de tout le pays pour s'inspirer de cette réussite. C'est un reportage de Diane Cambon.
C'est une petite bourgade perdue dans la plaine d'Estrémadure, située à l'ouest de l'Espagne. Tout le village de Pescuesa s'est adapté à ses seniors. Des rampes ont été fixées sur les murs des rues les plus inclinées. Le sol de la principale artère a été peint avec un revêtement bleu antidérapant. Enfin, un centre d'accueil à mi-chemin entre maison de retraite et club de troisième âge est ouvert 24 heures sur 24. Un centre avec une vocation spéciale, comme l'explique Raquel, sa directrice.
Notre centre est différent car les portes sont toujours ouvertes. Les personnes âgées entrent et sortent comme elles le souhaitent. Nous leur offrons tous les services possibles, c'est à la carte. Elles trouvent tout ce qu'elles ne peuvent plus faire chez elles, comme se doucher, laver leur linge ou préparer leur repas. Mais la majorité vivent chez eux.
C'est le cas d'Anrel Martinez, âgé de 92 ans. Veuf depuis 2 ans, il vient chaque jour à pied de l'autre bout du village au centre d'accueil pour y prendre son déjeuner et dîner, mais aussi suivre le cours de gym ou passer un moment avec ses amis. Chez lui, une aide à domicile vient lui faire le ménage une fois par semaine et lui change les draps. Il dispose également d'un téléphone portable relié en permanence au centre. Un service qui lui coûte 400 euros mensuels. Dans la salle principale, il prend place sur son fauteuil bleu à côté de sa sœur de 88 ans.
Ce n'est pas drôle d'être seul chez soi. La solitude, c'est très dur depuis que j'ai perdu ma femme. Ici, on est très bien traité et on voit du monde. Tiens, aujourd'hui, j'y ai pris une douche merveilleuse. J'y suis resté le temps que je voulais et ensuite, j'ai pu récupérer mes vêtements tout propres et repasser.
Celui, personne âgée, nécessitant des soins intensifs, dorment dans cette maison de retraite. La plupart préfèrent vivre chez eux. C'est d'ailleurs la philosophie défendue par le centre, comme l'explique Raquel.
Pour nous, c'est très important que les personnes âgées ne se coupent pas de leurs racines, qu'elles maintiennent leur maison ouverte, qu'elles continuent d'avoir des liens avec les personnes avec lesquelles elles ont grandi ou côtoyé, car ce sont des références.
Une petite voiture électrique transporte les seniors qui ne peuvent plus trop se déplacer dans le village. On les ramène chez eux après le déjeuner, ou les dimanches, on les conduit à la messe de midi. La vie revient au village.
À l'heure actuelle, nous sommes 10 personnes du village qui travaillons au centre. Et dans un village comme Pesquessa, eh bien, les personnes âgées sont aujourd'hui notre source d'énergie.
La reconversion de Pesquessa a certes permis de fixer la population vieillissante dans le village. Avant, de nombreux seniors devaient quitter leur bourgade pour aller dans les villes où les services des soins étaient plus développés. Mais elle a aussi permis de retenir et faire revenir des jeunes actifs, comme l'explique le maire Andrés Rodríguez.
Le projet Reste avec nous a permis d'apporter du sang neuf au village, car il a été une source de travail pour les jeunes. Prendre soin des personnes âgées requiert beaucoup de personnel qualifié et attentionné. C'est une révolution pour le village, car tous ces gens qui disposent d'un travail ici ont des enfants, et ça c'est l'avenir. Cela va stopper le dépeuplement de Pesquessa.
Avant la mise en place du projet, il y a 4 ans, il n'y avait eu aucune naissance à Pesquessa en 16 ans. Aujourd'hui, les 10 femmes qui travaillent au centre ont tous des enfants. Pesquessa fait désormais figure de modèle. Le projet, dont le budget annuel tourne autour de 160 000 euros, est financé par la province, la région et la municipalité. Chaque personne âgée paie les prestations choisies, mais ici, pas de bénéfices. Tout est facturé au prix coûtant. L'important est de maintenir la population, toutes générations confondues.
L'Allemagne, l'Europe s'apprête à commémorer la chute du mur de Berlin. C'était il y a 30 ans. Avant la construction du mur, il y avait le rideau de fer qui a séparé, dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est, sous influence soviétique. Et c'est sur ces années que se concentre le premier épisode du documentaire « De l'autre côté du mur », réalisé par Cécile Post de la RTBF, avec le philosophe Vincent von Wroblewski.
Les armées victorieuses des puissances alliées ont mis les troupes allemandes en déroute. Notre tâche et notre devoir sont maintenant d'achever la destruction de l'ennemi, de le forcer à déposer les armes et de se rendre sans condition.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors du protocole de Londres et de la conférence de Yalta, la décision est prise de partager Berlin entre les 4 puissances victorieuses. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis occupent 3 secteurs à Berlin-Ouest. Les Soviétiques, eux, s'emparent de Berlin-Est.
Les premières 10 années de RDA, c'est tout à fait sous l'emprise du stalinisme. Il reste une méfiance entre les dirigeants et le peuple. Ces dirigeants n'ont jamais eu une base populaire. Et c'est ça le drame. Ils emploient des méthodes de violence, de dictature, de contrôle. La Stasi se développe, la police politique. La méfiance est mutuelle. Les gens ne croient pas à ce que disent les dirigeants. Ils savent, on leur raconte des mensonges. Et les dirigeants ont une méfiance envers ce peuple. Ils savent bien, ce sont ceux qui ont suivi les nazis. Est-ce qu'on peut leur faire confiance?
Le 18 juin 1948, afin de relancer l'économie dans leur zone d'occupation à Berlin, les 3 alliés occidentaux annoncent une réforme monétaire en créant le Deutschmark. Les soviétiques réagissent 5 jours plus tard en créant leur propre monnaie et ils décident de bloquer toutes les voies d'accès aux secteurs occidentaux de Berlin. Ils privent ainsi de ravitaillement quelques 2 millions de West-Berlinois. Erich Adenauer, alors vice-président du Parti social-démocrate allemand, annonce au monde le début du blocus de Berlin.
Depuis ce matin, l'approvisionnement de Berlin est complètement bloqué. On veut menacer la population de Berlin avec la faim. Ça n'a plus rien à voir avec la politique. C'est du chantage.
Les axes ferroviaires et routiers sont systématiquement coupés et contrôlés par les soviétiques. La navigation sur la Spree est également interrompue. La voie aérienne est la seule qui reste libre. Le général Klee est l'un de ceux qui décide de mettre en place le pont aérien pour ravitailler Berlin-Ouest. Nous sommes en 1948, c'est là l'un des épisodes majeurs de la guerre froide.
Le vrombissement continu des avions était pour eux la sécurité. Alors la ville était donc vivait donc au rythme du bruit, et dès que le ciel devenait opaque, la brume descendait sur la ville, que le brouillard devenait très épais, alors les visages s'angoissaient. Et tout le monde regardait le ciel, écoutait, surtout, c'était surtout les oreilles que les gens ouvraient. Et dès qu'on entendait de nouveau le bruit, un ronronnement de moteur, alors la ville respirait. Il y a eu tout de suite, immédiatement, une très grande vague de reconnaissance. Au fond, le pont aérien a permis d'effacer l'hostilité qui régnait entre alliés et allemands.
Le blocus de Berlin a vécu. Et la barrière qui, depuis 11 mois, isolait l'ancienne capitale du Reich, a sauté sur les autostrades, puis en gare d'Helmstedt, à la frontière de la zone britannique, devant le premier train en partance pour Berlin.
Le blocus de Berlin s'achève le 12 mai 1949, soit 11 mois après avoir commencé. Le 5 mars 1953, Staline décède. Les dirigeants de la RDA décident de passer de la phase antifasciste démocratique vers le socialisme. C'est à ce moment-là que le gouvernement est-allemand décide d'augmenter les normes de production en Allemagne de l'Est, mais sans en augmenter les salaires. Cette décision conduit les ouvriers de RDA à faire grève. Nous sommes le 17 juin 1953, les ouvriers défilent dans la rue, le gouvernement décrète l'état d'urgence.
La grève ne pouvait pas exister. L'argument idéologique pourquoi la grève ne peut pas exister, la RDA c'est l'état des ouvriers et paysans, les ouvriers ne peuvent pas faire la grève contre eux-mêmes. Donc ça ne peut être que l'ennemi de classe qui les a incités à faire la grève. Dans l'idéologie ou dans la réaction du pouvoir à l'Est, c'est une contre-révolution menée par l'Ouest. Donc il faut l'écraser, il faut sauver le socialisme. Et c'est là qu'interviennent les tanks soviétiques.
80 morts et 25 000 arrestations, c'est le bilan humain de ce soulèvement. La révolte du 17 juin 1953 est aussi révélatrice de l'échec de la politique économique menée par Walter Ulbricht, le chef du SED. Ulbricht entreprend plusieurs réformes économiques en RDA. Son slogan, dépasser sans rattraper. L'économie ouest-allemande est en plein essor, celle de la RDA ne décolle pas, ce qui pousse les Allemands de l'Est à se rendre à l'Ouest. Cette concurrence économique entre les deux Allemagnes sera fatale pour la RDA.
De l'autre côté du mur, de Cécile Post, de la RTBF. Et Accent d'Europe sera en direct de Berlin vendredi avec Léa-Lisa Westerhoff, envoyée spéciale dans la capitale allemande pour une émission consacrée aux 30 ans de la chute du mur. En un mot, c'est notre chronique qui décortique un mot, une expression européenne. Et en Allemagne, on adore les diminutifs. Ainsi, après la chute du mur de Berlin, deux petits mots se sont popularisés, Ossis et Wessis. Ossi est la contraction d'Ostdeutsch, l'allemand de l'Est. Et Wessi, vous l'aurez compris, c'est son pendant de l'Ouest. Alors des petits surnoms affectueux, pas vraiment Deborah Berlioz.
J'ai beau essayer, je suis bien incapable de distinguer un Ossi d'un Wessi quand je me promène à Berlin. D'ailleurs, je me demande si ces mots font bien sens aujourd'hui. Après tout, cela fait déjà 29 ans que l'Allemagne est réunifiée, mais ces expressions n'ont pas disparu et on les retrouve même régulièrement dans les médias. Pourtant, l'espace d'un instant, ces mots n'ont plus eu aucune importance. Jorn, originaire de l'Ouest, s'en rappelle avec émotion.
Le jour où le mur est tombé, beaucoup sont passés de l'autre côté. Et la différence entre l'Est et l'Ouest a disparu pour 24 heures. Pourtant, on pouvait voir les différences, notamment dans les vêtements. Mais l'euphorie était telle que l'Est et l'Ouest n'existaient plus.
Mais l'ivresse est passée et elle a laissé la place à la méfiance et aux préjugés. Si les Allemands de l'Est utilisaient déjà le terme « Wessi » pour désigner ceux de l'Ouest, le terme aussi s'est popularisé après la chute du mur. Et la connotation est clairement péjorative. Yana en a souvent fait les frais dans les années 90. À l'époque, elle quitte la région de Berlin pour la Bavière.
La première chose qu'il nous disait, c'était « Quoi ? Vous êtes des Aussies ? Mais ça ne se voit pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il croyait ? Que nous avions les pieds en dedans, des grosses lunettes et que nous louchions ? Pour eux, les Aussies venaient de Saxe, avaient l'air stupides, des vêtements pourris et une coupe de merde. »
Mais les Allemands de l'Est font pareil et se moquent à leur tour de leurs compatriotes.
Le Vessie supérieur qui sait tout mieux que tout le monde.
À l'Est, on invente même des dictons sur les gens de l'Ouest. Anya, originaire de Dresde, s'en souvient encore.
Le renard est intelligent, mais se fait passer pour un imbécile. Chez le Vessie, c'est l'inverse.
Dans les années 90, les sondages montrent en effet que les Allemands de l'Est trouvent les Vessies arrogants, avides de pouvoir, ambitieux et égoïstes. Il faut dire qu'après la réunification, les Allemands de l'Est ont été sommés de s'adapter à l'économie de marché, et cela ne s'est pas fait en douceur. Les entreprises ont été privatisées, souvent rachetées par des gens de l'Ouest. Des travailleurs ont été licenciés, le chômage a explosé. Cela a nourri les ressentiments, selon Anne.
À l'époque, les Aussies se sont certainement sentis un peu ignorés. Tout est allé très vite. Ils ont vu les Vessies venir à l'Ouest, acheter des choses, prendre les choses en main. Et beaucoup d'industries, d'entreprises ont fait faillite à l'Est. Donc forcément, les gens ont eu l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Et clairement, critiquer l'autre est une manière de renforcer sa propre estime de soi.
Et 30 ans après la chute du mur, les différences persistent encore entre les deux Allemagnes. Les revenus sont toujours clairement inférieurs sur les terres de l'ancienne dictature communiste et les grandes entreprises du pays ont presque toutes leurs sièges à l'Ouest. Alors certes, une Allemande de l'Est réside aujourd'hui à la chancellerie, mais dans l'ensemble, les Allemands de l'Est sont toujours largement sous-représentés parmi les élites politiques et économiques du pays. Pas étonnant donc que les mots « aussi » et « Vessie » n'aient pas disparu. Mais selon Anya, les préjugés s'effacent doucement.
Je pense que oui, parce que la plupart des gens, presque tous, ont voyagé dans l'autre partie de l'Allemagne et ont appris à connaître leurs nouveaux compatriotes.
Anya, d'ailleurs, s'est mariée à un Bavarois, une union entre l'Est et l'Ouest. Ses enfants ne seront donc ni aussi ni Vessie, mais simplement allemands.
La semaine dernière, les Moscovites ont rendu hommage aux victimes des purges staliniennes, une initiative organisée chaque année par l'ONG Mémorial. L'évocation de cette période est très sensible dans la Russie actuelle, dans un contexte où le pouvoir opère une réhabilitation pernicieuse de Staline. À Sotchi, dans le sud du pays, Étienne Bouche a visité sa datcha, sa maison de repos, l'une des attractions touristiques de la région.
Depuis un large balcon ombragé, le visiteur aperçoit la mer Noire à travers une végétation luxuriante. Bâtie sur une colline surplombant le littoral, cette élégante demeure vert émeraude conserve une certaine fraîcheur durant l'été. Staline a pour habitude de s'y rendre chaque année durant l'été indien. Dans cette région réputée pour ses sanatoriums, le dirigeant soviétique y reçoit des soins thermaux. Ce lieu de villégiature n'est visité que par sa garde rapprochée. Dans l'ancienne salle de cinéma transformée en musée, de rares photos témoignent de l'intimité de Staline dans ses murs. La vente de souvenirs à l'effigie du dictateur a de quoi déconcerter le visiteur étranger, mais elle illustre la curieuse réhabilitation de Staline en Russie. La terreur des années 30 n'est pas occultée par le pouvoir, mais le responsable n'est jamais clairement nommé. Cette page de l'histoire demeure très sensible. Les historiens qui la documentent subissent des intimidations et se retrouvent parfois dans l'engrenage de la justice. À grand renfort de commémoration militaire, Staline est d'abord présenté comme celui qui a rendu possible la victoire contre l'Allemagne nazie. Une lecture qui porte ses fruits. Selon un sondage réalisé au printemps par le centre Levada, 41% des Russes affirment éprouver du respect pour Staline. Son régime totalitaire est pourtant responsable de la mort de plusieurs millions de citoyens soviétiques. Ekaterina Schulman invite toutefois à nuancer ce rapport à Staline. Pour cet analyste politique reconnu, le dictateur soviétique est devenu pour la majorité une figure quasiment abstraite. En lui attribuant les mérites d'une grandeur passée, les Russes exprimeraient avant tout leur mécontentement croissant à l'égard du système bureaucratique actuel.
Accent d'Europe à la réalisation, Thibaut Baduel. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.
RFI.